Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Et c'est vrai, on pourrait continuer encore, n'est-ce pas vrai? On pourrait continuer. C'est comme un fleuve qui coule. On pourrait continuer. On est si bien dans sa présence. Quand tous nos regards sont sur lui seul, il n'y a plus rien d'autre qui compte que lui. Car nous avons été créés pour Dieu, pour adorer notre Sauveur. Quand nous le faisons, nous découvrons notre destinée éternelle et le plan de Dieu pour notre vie. C'est tellement vrai. Nous avons été créés par lui, par Jésus et pour Jésus. L'Épître aux Colossiens qui nous dit cela. Alléluia. Et nous devons toujours plus entrer dans cette réalité glorieuse. Dans ce monde, il y a tant de déceptions. L'homme sait-il pourquoi il a été créé? Vous posez la question aux uns et aux autres, ils ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi. Manger, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Ils ont été créés pour ça, métro, boulot, dodo. Alors, vous voyez, ça ne va pas plus loin. C'est pourquoi les gens sont dans une telle dépression, désespérés, dépressifs. C'est vrai. On peut se mettre à leur place. Nous avons été comme eux. Oh, ils puissent découvrir cette vérité glorieuse de la parole. Cet après-midi, nous allons continuer encore sur le thème un peu du Saint-Esprit. Après la réunion, nous prendrons du temps pour prier pour les malades qui le désirent. Mais quelques pensées générales sur la vie de l'Esprit-Saint et tout spécialement dans les Actes des Apôtres. Lorsque nous lisons tout le livre des Actes, nous découvrons en tout cas, 5 vérités importantes qui sont comme les 5 clés du livre des Actes. C'est comme 5 clés. Parce que ça se reproduit toujours. Quand le Saint-Esprit fait quelque chose, ces 5 vérités se retrouvent toujours. C'est comme un cycle permanent qui se manifeste lorsque l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Alors voyons brièvement ces 5 clés du livre des Actes. Ces 5 clés, pour mieux s'en souvenir, commencent tous par la lettre P. Comme ça, vous pouvez vous en souvenir plus facilement. 5 P. 5 piliers, ça fait, n'est-ce pas? Alors, le premier pilier, c'est la prière. Ben, je vais tout vous donner, je vais vous donner les 5, hein? Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Le deuxième pilier, c'est la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas vrai? Il n'y aurait pas de livre des Actes des Apôtres sans la puissance, n'est-ce pas vrai? Troisième pilier, prédication de la parole de Dieu. C'est tout au travers des Actes, on voit cela. Quatrième pilier, persécution. Nous voyons cela aussi, n'est-ce pas vrai? Nous le voyons, chaque fois que l'Esprit agit, l'ennemi réagit. Toujours quelque chose qui se passe, persécution. Et cinquième pilier, progression. Progression. Bien souvent, nous le voyons, c'est quand il y a eu des persécutions et des tribulations que l'œuvre du Saint-Esprit se fait encore plus grande. On est étonné, dans les Actes des Apôtres, c'est quand il y a des coups durs, des moments terribles dans l'Église, que l'Esprit de Dieu agit le plus en profondeur. Et aussi en dimension. Voici donc les 5 clés. La première, la prière. Et dans cette prière, bien sûr, il y a différentes sortes de prières. Dans les Actes des Apôtres, vous vous souvenez, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, pas la prière. Parce qu'il y a plusieurs sortes de prières, n'est-ce pas? Certains ne connaissent que la prière de revendication, de pétition. Mais il y a une autre prière que les Actes des Apôtres connaissaient, c'est bien sûr la louange et l'adoration. C'était un point et une vérité importante dans leur vie personnelle et dans la vie de l'Église. Ils continuaient, ils persévéraient dans ces choses. Et nous les voyons aussi louant et bénissant Dieu. Ils étaient chaque jour, donc ensemble, ils prenaient leur nourriture avec simplicité, louant Dieu. Voilà donc, avant la prière pétition, nous devons réaliser ce qui était le secret des premiers chrétiens. C'était la prière, louange et adoration. Nous en avons parlé, mais il est bon de redire quelques mots à ce sujet. C'est très important. Et cela, quelles que soient les circonstances. Je pense à Paul et Silas dans la prison, n'est-ce pas vrai? Qu'est-ce que vous auriez fait dans la prison? Il est dit au milieu de la nuit, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Priaient et chantaient les louanges de Dieu. Avez-vous remarqué ce qu'ils chantaient? Les louanges de Dieu. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de quoi louer Dieu, dans le sens que ce qu'ils faisaient n'était pas tellement à louer. Ils se trouvaient en prison. Et pourquoi ils ont été en prison? Si vous lisez un peu avant, c'est parce qu'ils avaient chassé un démon d'une jeune fille qui avait un esprit de python, de divination. Alors ils avaient bien fait l'œuvre du Seigneur, ils avaient chassé ce démon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette jeune fille produisait un grand gain à ces personnes qui la connaissaient. Alors les gens de la ville sont arrivés et ont saisi Paul et Silas et les ont mis en prison. Et là, vous êtes d'accord avec moi? En prison, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Dites Seigneur, c'est les pourquoi qui commencent un peu à sortir de nos cœurs. Comment? On a fait un travail merveilleux, on a délivré cette jeune fille, et maintenant, comme récompense, il nous donne la prison. Qu'est-ce qui se passe? On a tous un peu ces réactions, n'est-ce pas? Mais Paul et Silas avaient appris quelque chose, avaient compris quelque chose. C'est que quelles que soient les circonstances, il ne faut jamais douter de l'amour de Dieu et de la sagesse de Dieu et de la puissance de Dieu. Si nous ne doutons pas de ces trois vérités importantes, notre louange montera toujours plus pure et plus belle devant le trône de Dieu et sera comme un parfum de bonne odeur. Alléluia! C'est pourquoi les louanges de Paul et de Silas montaient comme un parfum de bonne odeur. Dans cette prison, ils priaient et louaient Dieu, comme pour lui dire, Seigneur, on ne comprend pas, mais tu as un plan. Amen. Amen. Tu as un plan. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Absolument, tout est contraire à ce qu'on pense. On a même l'impression que tu es contre nous, Seigneur. Mais ce ne sont que des impressions. Et bien souvent, nous nous faisons prendre avec les impressions. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ne nous fions jamais aux apparences. Pensant que Dieu n'agit pas ou il est contre nous, jamais. Dieu est derrière, il contrôle tout. Il est le souverain. Amen. Si c'était le diable qui contrôlait tout, ils auraient bien vite fait de tuer Paul et Silas, n'est-ce pas vrai? Et les apôtres aussi. Et les autres, il aurait bien fait de tous les liquider, n'est-ce pas vrai? Est-ce qu'il l'a fait? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui contrôle toutes choses, c'est le Seigneur. Amen.
Il y en a un qui contrôle toutes choses, c'est le Seigneur, la puissance de Dieu. Alors dans la louange, Paul et Silas avaient compris cela, Seigneur, tu es le souverain, tu es le tout-puissant, voilà pourquoi je peux te louer. Et tu m'aimes quand même, je ne veux jamais douter de ton amour. Et dans ta sagesse, tu vas aussi me conduire. Tu vas faire quelque chose que je ne comprends pas. Et pourquoi finalement Paul et Silas ont-ils été en prison? Dieu avait un plan dans sa sagesse. C'était quoi? La conversion du geôlier et de toute sa famille. Amen. Alléluia. Et le geôlier et toute sa famille ont été les premiers membres, avec Lydie, je crois, les premiers membres de l'église, de leur ville. Et c'est ainsi que, voyez-vous, Dieu, malgré les circonstances contraires, avait un plan et il a conduit ce plan à la perfection. Mais pour que Dieu conduise ce plan à la perfection, nous devons rester dans cet esprit de louange et ne jamais douter de Dieu. Jamais, jamais. De son amour, de sa puissance et de sa sagesse. Dieu est parfait dans toutes ses voies. Et si nous sommes imprégnés, si nous nous imprégnons de ces trois vérités fondamentales, notre louange montera toujours d'un cœur profondément touché et brisé. Mais c'est alors que Dieu agrée un sacrifice, le sacrifice d'un cœur brisé. Amen. Et c'est là que notre louange a une portée extraordinaire. C'est la première clé des actes des apôtres. Et bien sûr, il faut prier, il y a les prières pétitions, mais nous devons le faire avant d'avoir, sans avoir adoré le Seigneur. Dans la prière dominicale, comment est-ce qu'elle commence? Est-ce que ça commence « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » Est-ce que le Seigneur a commencé comme ça? Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Voyez-vous, ça commence par l'adoration. Et ça finit par l'adoration. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Vous le remarquez? Tout est entouré de louanges et d'adoration. Car après, nous n'aurons pas à prier beaucoup. Et même nos prières changeront. Nos prières seront transformées. La louange et l'adoration transforment l'esprit de nos prières. Nous sommes plus dans l'esprit lorsque nous prions. Lorsque nous avons d'abord adoré, n'est-ce pas vrai? Vous l'avez remarqué certainement. Après un moment d'adoration et de louange, la prière coule, n'est-ce pas? Elle est plus facile. Et on sait mieux ce qu'il faut demander. Car c'est lorsque nous demandons selon sa volonté que nous sommes exaucés. Ce n'est pas la prière comme ça, on ne peut pas demander n'importe quoi, comme ça. La louange doit faire partie intégrante de notre vie, mes amis. Et notre prière doit être entourée de louange et d'adoration. Et cela, quelles que soient les circonstances. Nous le voyons avec les premiers apôtres et les premiers disciples. C'est important. Et partout, nous voyons tout au lit, autour. Et puis après, ils étaient remplis de joie et tout cela, malgré les persécutions. Alors, voilà une première vérité que nous devons toujours bien garder dans notre cœur. Deuxième clé, c'est la puissance du Saint-Esprit. On l'a vu ce matin. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Voyez-vous, pour que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie des apôtres et des premiers disciples, c'est d'abord parce qu'ils avaient passé du temps dans la communion avec Dieu, n'est-ce pas vrai? Et c'est alors que la puissance de Dieu descendait et se manifestait d'une manière extraordinaire. C'est la louange et l'adoration qui amènent la présence de Dieu. Nous le voyons ici lorsque nous adorons sincèrement, n'est-ce pas vrai? On est comme porté. n'est pas quelque chose qu'on essaye de fabriquer. Non, c'est quelque chose. C'est pas quelque chose qui monte en haut, c'est quelque chose qui descend d'en haut. N'est-ce pas vrai? Et alors, lorsque nous découvrons cela, nous réaliserons que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple, d'Israël. Dieu siège au milieu des louanges. Et comme nous l'avons vu samedi soir, il siège au milieu des louanges de son peuple. C'est-à-dire que nos louanges deviennent comme un trône où Jésus vient s'asseoir, régner et se manifester. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas de puissance sans être d'abord venu dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons être des témoins sans être d'abord des sacrificateurs. Amen. Et ça, les premiers chrétiens l'ont compris. Avant d'être témoins, ils étaient des sacrificateurs. Alléluia. Avez-vous remarqué lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte et qu'il parlait des nouvelles langues comme ça et que les gens comprenaient, qu'est-ce qu'il disait? Il ne prêchait pas. C'est une erreur. Certains commentateurs disent, voyez-vous, donc à la Pentecôte, c'était simplement pour prêcher l'Évangile qu'ils ont parlé en langue. Pas du tout. C'est Pierre après qui a prêché, n'est-ce pas vrai? Mais qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit, quand les gens entendaient parler dans leur langue maternelle, comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Amen. Ils n'étaient pas en train de prêcher. C'est une erreur, cela. La prédication a sa place. Mais avant cela, le Saint-Esprit sur eux a fait d'eux des sacrificateurs. Et nous sommes un peuple de sacrificateurs. Alléluia. Et savez-vous que le plus grand ministère, c'est le ministère de sacrificateur. Ce n'est pas le ministère d'apôtre, prophète, pasteur, évangéliste et docteur. Non, non. Ces ministères-là sont pour la terre et pour les hommes. Tandis que le ministère de sacrificateur est pour Dieu. Et il durera pour l'éternité. Tandis que l'autre durera pour un temps. Il y a quelque chose de plus grand que les ministères terrestres. Il y a un ministère que Dieu a donné à tout le monde. À chaque chrétien, né de nouveau, tu as ce ministère. Et tout commence par ce ministère. Si tu es fidèle dans ce ministère, beaucoup de choses vont se débloquer dans ta propre vie. Dans ton église aussi. Beaucoup de choses peuvent se débloquer. C'est pourquoi nous devons être conscients de cette vérité. Que nous sommes, par le Saint-Esprit qui vient sur nous, nous devenons des sacrificateurs. Et un sacrificateur devait offrir des sacrifices, n'est-ce pas? Naturellement, nous n'offrons plus des sacrifices sanglants, mais nous offrons un sacrifice de louange qui confesse son nom. Premier pilier, prière. Deuxième pilier, puissance. Mais cette puissance se manifeste lorsque nous passons du temps avec Dieu. Vous savez, on est tous les mêmes. Moi-même, je me sens comme orphelin, comme privé de quelque chose de puissant lorsque je ne passe pas du temps dans l'adoration et la louange. Car sans le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous sommes tous les mêmes, mes amis. Les cinq clés des actes des apôtres, c'est ça. Mettons-les en pratique et nous verrons Dieu agir. Alléluia. Après la puissance, le troisième P, c'est la parole de Dieu. La prédication de la parole de Dieu. Acte 2, 38. Alors après, quand le Saint-Esprit est descendu, l'apôtre Pierre s'est mis à prêcher, n'est-ce pas vrai? Et il a commencé à prêcher, il y a tout un long discours. Une fois qu'il était vraiment rempli du Saint-Esprit, que la puissance de Dieu est descendue, la prédication est là, de la parole de Dieu. Et si vous lisez, j'ai lu plusieurs chapitres des Actes des Apôtres cette semaine, Et vous verrez qu'à plusieurs reprises, il est dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Aujourd'hui, on dit c'est le message de l'unité, c'est le message de l'amour, c'est le message de paix qui se répand. C'est tout ce qu'on entend aujourd'hui. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Et on veut nous faire croire que c'est ça un réveil. Ce ne sera jamais un réveil si ce n'est pas la parole de Dieu qui se répand. Quelques versets pris hors de leur contexte. Et on veut nous faire croire que c'est la parole de Dieu. Non, mes amis. Ce n'est pas un message particulier comme cela, sorti de son contexte. Car un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Vous pouvez faire dire à la Bible tout ce que vous voulez si vous prenez des textes hors de leur contexte. Et c'est comme cela d'ailleurs que toutes les fausses doctrines ont commencé. Vous prenez un texte et vous lui donnez le sens que vous voulez. Mais au-dessus et en dessous, ça veut dire autre chose. Mais vous, vous le faites dire comme vous le pensez. Si c'est comme cela qu'on lit la Bible, alors c'est la catastrophe, c'est fini. Il faut lire le texte dans son contexte. Amen. Et c'est ainsi que cette parole deviendra une parole de Dieu. Alléluia. À plusieurs reprises, il est dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et quel était le message de Pierre, rempli du Saint-Esprit? Vous le connaissez, mais juste quelques pensées. Acte 2, 37-38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il a encore dit autre chose, il les conjurait, voyez-vous, regardez la prédication de la parole, il les conjurait, il les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Vous vous rendez compte? Et Pierre est là, rempli du Saint-Esprit. Il y avait donc un sérieux dans son message. Et juste un peu au verset 36, voici comment il finit son message. « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Alléluia! Il y avait donc dans ce message des vérités importantes. La vérité de la croix, la vérité de la résurrection de Jésus. Et c'est ainsi que, en prêchant la croix, les hommes ont été profondément touchés. Profondément touchés. Et ils se disaient, que ferons-nous? Voyez-vous, du temps des apôtres, c'est l'auditoire qui faisait l'appel. Quand il a dit, hommes, frères, que ferons-nous? Avez-vous remarqué, c'est l'auditoire qui fait l'appel. Aujourd'hui, c'est le prédicateur. Mais du temps des apôtres, c'était l'auditoire. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils ont vraiment compris quelque chose. Amen. Tandis que nous, bien souvent, pour qu'une personne réponde à l'appel, combien de fois on doit aller, venez, 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 allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oh là là, on est fatigué de faire des appels. Tandis que là, c'est eux-mêmes. Hommes, frères, que ferons-nous? Ce sont ces conversions-là qui tiennent. Amen. Les autres, moitié-moitié. Bon, d'accord, allez, avance-toi, avance-toi. Bon, et on s'avance, non pas par conviction, mais pour faire plaisir à lui ou à elle à côté. Alors on vient ici, Seigneur, pardonne, Seigneur. On quitte la réunion, mais toujours la même personne, rien ne change. Rien ne change. Mais c'est pas vrai. Et c'est bien souvent comme cela que ça se passe. Et là, dans cette prédication, il y avait justement ce message de l'amour de Dieu, de Jésus crucifié pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Ce message doit être fondamental. C'est cela l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et Paul dit que si nous ne prêchons pas cet évangile, si nous ne restons pas dans cet évangile, nous croyons en vain. Vous vous rendez compte? Nous pouvons croire en vain si nous croyons ce que nous voulons. Oh, ce qui compte, c'est l'amour de Dieu. L'enfer n'existe pas. Il ne faut pas effrayer les gens avec le message de l'enfer. Vous croyez que Pierre pensait à cela quand il a dit « Sauvez-vous de cette génération perverse ?» Vous savez, quand le Saint-Esprit est là, c'est à ce moment-là qu'on réalise vraiment la perversité du cœur de l'homme. Amen. Amen. C'est quand on est dans la présence de Dieu qu'on réalise tout cela. Loin de la présence de Dieu, on a l'impression d'être la personne la plus aimable du monde. Loin de la présence de Dieu, on a l'impression d'être des personnes remarquables. On a toujours une bonne idée de soi. À qui vous parlez, monsieur? Il faudrait peut-être que je vous montre un petit peu ma carte de visite. Vous parlez de perversité. Voyons, c'est inadmissible. Mais c'est un affront. Je vois que vous avez des problèmes psychiatriques, monsieur. Le pasteur a des problèmes psychiatriques. Mais c'est comme cela qu'on réagit dans le monde. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, tout est bien. Alléluia. Oui, mais c'est Alléluia du bout de lèvres. Alléluia, Alléluia. Tout va bien. Tout va bien. Il ne faut surtout pas parler de péché. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, on ne parle pas de péché. Vous savez ce qu'on dit? Le péché, c'est une maladie, un complexe. Tu es complexé. Tu n'as pas de péché, tu es complexé seulement. Ou tu as dit, tu as des problèmes dans ta famille. Oui, c'est des problèmes un peu de ta vie passée, ton enfance. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, voilà comment on parle, n'est-ce pas vrai? Et les gens, on les endort. Car tant que nous ne traitons pas notre péché comme Dieu le veut, il n'y aura pas de délivrance. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que le péché n'existe pas, que ce péché s'en va et qu'il n'est pas là. Il est toujours là et est une séparation entre Dieu et l'homme, entre le Dieu trois fois saint et l'homme pécheur et corrompu. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mes amis, vous dites que vous êtes fort, mais Pierre, c'est comme ça qu'il prêchait. Quand le Saint-Esprit est là, alors le Saint-Esprit révèle la perversité du cœur de l'homme. Et tant que tu n'as pas réalisé la perversité dans ton propre cœur, c'est que tu n'as pas expérimenté, tu n'as pas fait une expérience profonde avec Dieu. Si tu penses, oui, je suis pécheur, d'accord, mais je ne suis quand même pas si mauvais que ça. Il ne faut quand même pas exagérer, monsieur. Vous allez trop fort. Je vais pécher, oui, comme tout le monde. Mais je ne suis pas si mauvais que ça. Alors, n'exagérez pas. Ceux qui parlent comme cela ne se connaissent pas. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas rencontrer Dieu. Ils peuvent avoir une religion, c'est vrai. Et le monde leur donne des religions. Et il y en a des religions, n'est-ce pas vrai? Ça pullule. Et il y en a de plus en plus. Mais la religion n'a jamais délivré quelqu'un. Ces gens religieux, vous les voyez encore dans leurs péchés, leurs passions. Il n'y a pas de délivrance. La religion n'a jamais délivré personne. C'est ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui est mort pour vos péchés, car le salaire du péché, c'est la mort. La séparation d'avec Dieu, la séparation dès ici-bas et la séparation éternelle après la mort, si nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Amen. Et il n'est pas question d'aller soi-disant au purgatoire après la mort. Et il y en a beaucoup qui sont pris par ce piège, ce mensonge du diable. Après la mort, il y a le purgatoire. Et encore, pour sortir de ce purgatoire, ça ne marche pas sans argent. Hein. Si vous n'avez pas de sous, ça ne marche pas. Alors déjà, d'emblée, tous les pauvres sont tous perdus. Ceux qui n'ont pas d'argent, terminé. Votre compte est fait. Il n'y a pas. Tu n'en as pas? On ne peut pas. La machine, elle marche quand il y a des sous. S'il n'y a pas les sous, on ne peut pas. Alors vous croyez que c'est ça la bonne nouvelle? Vous croyez que c'est ça la bonne nouvelle? Et des multitudes croient ce mensonge. ce n'est pas après la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Où tu es, si tu es sauvé, tu vas au ciel. Si tu n'as pas fait l'expérience de la conversion, du changement de vie, c'est l'enfer. C'est la vérité de l'Évangile. Et c'est pourquoi Pierre disait, l'action, le premier verbe rempli du Saint-Esprit, quand l'auditoire lui demande, que faut-il faire ? Repentez-vous. Repentez-vous. Et ce mot-là aussi a complètement disparu de beaucoup de bouches de prédicateurs et dans beaucoup d'églises. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Bien sûr, c'est écrit. Mais attention, il faut dire le message complet. Repentez-vous. Ah oui, non, il ne faut pas faire peur aux gens. Il ne faut pas faire peur. Il ne faut pas les culpabiliser comme ça, à ce point-là. Crois seulement, le Seigneur est mort, crois, accepte-le dans ton cœur, et tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe avec ces personnes? Il n'y a aucun changement. Quand dans la vie d'une personne qui se dit chrétien, il n'y a pas de changement, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas de changement, c'est qu'il n'y a pas eu de repentance. Amen? Tout est clair. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est changer de direction. C'est changer de pensée, de mentalité. C'est ne plus voir les choses comme tu les voyais jusqu'à présent, mais comme Dieu les voit. C'est considérer le péché comme Dieu le voit. C'est considérer sa parole comme Dieu la voit. Amen. Je me repens, je change ma façon de voir. Jusqu'à présent, j'avais ma philosophie, ma religion, mes idées, et j'étais bien là-dedans. Mais maintenant, le Saint-Esprit vient. Un esprit de lumière, un esprit de vérité. Il vient et chamboule tout cela. Oh, nous devons bénir Dieu pour ces chamboulements et ces bouleversements et ces électrochocs. Alléluia. Nous avons besoin des électrochocs du Saint-Esprit. Ils valent beaucoup mieux que les électrochocs du psychiatre. Car les électrochocs du Saint-Esprit sont là pour nous délivrer. Amen. Repentez-vous. Quand quelqu'un entend ce message, je suis pécheur, j'ai vécu loin de Dieu, je suis un rebelle, j'ai fait des choses, j'ai adoré d'autres dieux, d'autres idoles. Qu'est-ce que je dois faire? Repends-toi. Ça veut dire quoi? C'est tout simple. Et pourtant, c'est la clé de la délivrance. Et c'est, si vous enlevez cette première vérité d'une vraie conversion, vos soi-disant conversions végéteront. Quand vous dites, ah non mais... Il ne faut pas tout dire au début. Il courait après 10 femmes et vous lui dites, maintenant tous les ans tu dois abandonner une femme. Ah oui, mais il ne faut pas aller trop fort. Hein? Ou il fumait 2 paquets de cigarettes. Bon, tu fais pendant 1 année 1 paquet. Est-ce que c'est comme ça que les apôtres prêchaient? Tu dis, est-ce que ça marche ça? Ça ne marche pas. C'est pas comme ça. La repentance, c'est réaliser justement la perdition, la noirceur de notre cœur, notre rébellion devant Dieu. On le réalise, on est perdu, on crie « Je suis perdu, malheur à moi, je suis perdu, aie pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur. » Voilà le cri qui jaillit du cœur d'un homme qui est touché par le Saint-Esprit. Alléluia! Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ses idoles, ses fétiches, ses passions, son péché, son ivrognerie, son adultère, ses cigarettes, c'est pas une cigarette par an qu'il faut abandonner. C'est le paquet définitivement et tout de suite. Ah, vous allez trop vite. Non. Alors reste dans ton coin, il ne faut pas prier pour seulement. Priez pour moi pour que j'abandonne seulement une cigarette tous les 10 ans. Tous les 10 ans. 9 ans, j'y réfléchis, ça fait trop fort encore. Mais 10 ans, c'est bon. Vous voulez prier? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà pourquoi nos prières ne montent pas jusqu'au ciel. Voilà pourquoi on est dans la confusion. On fait les choses comme nous voulons. La repentance, c'est le changement de mentalité. Métanoïa, c'est le mot grec. Métanoïa, ça veut dire changer sa façon de penser. Quand quelqu'un change sa façon de penser, il changera sa façon de vivre. Car nos pensées influencent notre façon de vivre, n'est-ce pas vrai? Vous vivez d'après ce que vous pensez, d'après vos idées. On est tous comme ça. Si vos idées sont bonnes et bibliques, ça va marcher. Mais si vos idées ne sont pas bonnes, ne sont pas bibliques, elles peuvent être religieuses, mais pas bibliques. Savez-vous qu'on peut être religieux et ne pas être biblique? Tu peux être religieux et cependant ne pas être biblique. Alors la repentance, c'est cela. Et quand quelqu'un se repent, mes amis, alors vous n'avez pas à le pousser, à le presser continuellement. Ah, il y a encore ça à changer. Oh, il y a encore ça à changer. Et nous voyons, certains nous disent même, moi je me convertis tous les jours. Moi j'ai entendu ça combien de fois? Vous devez vous convertir. Ah oui, frère, d'accord, oui. Mais ils sont d'accord avec la conversion. Mais ce n'est pas la même conception de la conversion. Ils ont leur idée sur la conversion, qui est tout à fait l'opposé de la conversion divine et biblique. Je me convertis tous les jours, frère. Qu'est-ce que c'est? On ne se convertit qu'une seule fois. Amen. On grandit ensuite dans la foi en Jésus-Christ. Mais la conversion, c'est un acte précis. Un jour, on se repent. On change sa façon de penser. Dieu voit les choses comme cela. J'ai péché, je suis loin de lui. Je suis séparé de Dieu. Je mérite le châtiment éternel. Pardonne-moi, Seigneur. Et ensuite, il nous montre la croix. Le Saint-Esprit nous montre la croix. Maintenant que tu réalises que tu es perdu, que tu ne peux pas te sauver toi-même, regarde à la croix. Ce que tu ne pouvais pas faire toi-même, Jésus l'a fait pour toi. Il est mort pour tes péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est dans ses meurtrissures que nous avons la guérison. Alors le Saint-Esprit d'abord met le projecteur sur notre péché. Et ensuite, il met le projecteur sur la croix, sur notre péché pour réaliser que nous sommes perdus, et sur la croix pour nous dire que nous avons un sauveur maintenant. Parce que tu as cru que tu étais perdu. Maintenant, Jésus est ton sauveur. Il peut devenir ton sauveur, car il est le sauveur de ceux qui ont réalisé qu'ils sont perdus. Amen. Ah oui, non, moi je ne suis pas perdu. Jésus est mon sauveur, mais moi je ne suis pas perdu. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyez-vous, c'est la confusion totale. Jésus est mon sauveur, alléluia. Mais je ne suis pas perdu. Quand même pas exagéré. Voyez-vous, alors c'est ça. Et c'est pourquoi notre vie spirituelle n'avance pas. On piétine. Repentez-vous. Change ta façon de penser. Change de direction. Abandonne tout au pied de la croix. Et le sang de Jésus te purifiera. Et ensuite, tu demanderas au Seigneur d'entrer dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, tu lui demandes d'entrer dans ta vie pour vivre une vie nouvelle. Entièrement nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues... Qu'est-ce que vous avez dans vos livres? Certaines choses? Non, c'est pas vrai, parce que... Dans ta vie, c'est certaines choses. Certaines choses sont devenues nouvelles. Non, c'est certaines choses. Mais combien de choses que tu gardes encore? Non, un chrétien, c'est quelqu'un qui vit une vie nouvelle. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est alors qu'on prend un bon départ, mes amis. Le départ est important. Si on prend un mauvais départ, on risque de traîner toute sa vie spirituelle. La prédication. Et cela, c'est important, la prédication. Amen. On veut aussi, de nos jours, mettre de côté la prédication. C'est une grave erreur. On vit une génération aussi où il ne faut plus prêcher. J'avais lu dans un article une fois, même un jeune homme était venu voir le pasteur après la réunion. Et le pasteur prêchait la parole avec conviction, comme ça. Et le Seigneur est mort sur la croix pour nous. Nous devons nous repentir. Nous devons changer de vie, tout ça. Le jeune homme est venu voir le pasteur, il a dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Qui êtes-vous pour dire un peu aux gens comme ça qu'ils doivent changer? Qui êtes-vous? Vous parlez avec autorité comme cela. Mais qui êtes-vous? Je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas prêcher comme ça aux gens. Il faut dialoguer. Vous voyez, c'est le dialogue maintenant. C'est le dialogue. Et dans le dialogue, il y a deux personnes qui parlent. Vous êtes d'accord avec moi? Alors vous parlez. Vous pensez avoir raison, mais l'autre aussi parle, et il pense avoir raison aussi. Alors le dialogue, c'est le mélange de deux personnes qui pensent avoir raison, mais qui ont tort tous les deux. Dialoguer avec des personnes qui ont tort, est-ce qu'on va s'en sortir? L'un vient avec ses idées, l'autre avec ses idées aussi. Mais on vit ce siècle-là. On veut tellement ne pas culpabiliser les gens. Voyez-vous qu'on enlève la sève même de l'Évangile. La prédication de la parole, voilà la clé, mes amis. Et nous devons revenir à ces prédications simples de la parole. Et combien de chrétiens, excusez-moi de le dire, ne supportent plus la prédication de l'Évangile. Supportent plus. Non, pas de prédication. On a des petits entretiens, un dialogue et tout ça. Mais on ne veut plus de prédication. C'est une grave erreur. C'est que le Saint-Esprit n'est pas le maître, là. Quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un, la prédication est primordiale. Comment croiront-ils si personne ne leur prêche? Comment croiront-ils? La prédication est vitale. Et Pierre n'a pas fait d'excuses ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Excusez-moi. Je ne veux pas vous faire de la peine. Mais vous savez quand même, hein, ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. Vous avez crucifié le saint et le juste. Hein, c'est pas bien. Il ne fallait pas faire ça. Ne recommencez plus. Hein. Non, ce n'est pas bien ce que vous avez fait. Non, ne faites plus ça. Mon petit, ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Est-ce qu'il a parlé comme ça? Est-ce que vous changez les gens en parlant comme ça? Rien du tout. Si vous les aimez vraiment, vous leur dites la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Bien sûr, cette prédication doit se faire avec un cœur d'amour et avec les larmes dans les yeux, la compassion. Un jour, j'avais lu cette histoire d'un pasteur qui faisait du porte-à-porte dans son village et il frappait aux portes comme cela pour parler du Seigneur. Et il est allé dans la porte dans la maison d'une personne, il a frappé à la porte. Et ce pasteur était connu dans ce village où il habitait. Et la dame a regardé par la fenêtre, vous voyez, derrière les rideaux comme ça. Qui est là? Qui est-ce qui frappe? Elle a vu que c'était le pasteur du village. Elle n'a pas ouvert la porte. Le pasteur frappait. Elle n'a pas ouvert la porte. Elle a regardé encore. Mais le pasteur était là et priait pour cette dame. Et les larmes ont commencé à couler sur ses joues, sur les joues du pasteur. Et ensuite, il est parti. Mais elle a vu cela. Le dimanche suivant, elle était à l'église. Ce sont ses larmes, sa compassion qui l'ont touchée. La vérité doit être dite dans l'amour, mais elle doit être dite à tout prix. Il n'y a pas des vérités, il n'y a qu'une vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. C'est clair et net. Ce n'est pas on discute, viens, on discute ensemble. Aujourd'hui, que de conférences mondiales où toutes les religions se rassemblent. Il y a tout un mouvement, n'est-ce pas ? Où toutes les religions vont ensemble pour nous faire croire que c'est ça, la volonté de Dieu. Non, mes amis, c'est une grave erreur. Ça, ce sont les pensées des hommes, mais ce ne sont pas les pensées de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas prêchée dans sa simplicité et dans son intégralité, nous perdons notre temps et nous trompons nos auditeurs. Nous les trompons. Revenons à la parole de Dieu. Même s'il y a des choses difficiles à dire, si on est rempli du Saint-Esprit, on les dira. C'est quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit que nous n'osons pas dire ces certaines choses. Amen. Repens-toi, c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Combien de personnes sont là et essayent encore de s'en sortir, de certaines passions, mais au fond de leur cœur, ils ne s'en sont pas vraiment repentis. Ils ne veulent pas vraiment abandonner cette passion. Il n'y a pas de repentance. Vous avez beau prier pour ces personnes. Ah, la personne se sentira un petit peu mieux. Mais tout de suite après, elle recommence. Mais le chemin de la délivrance, c'est la repentance. Le chemin d'une vie nouvelle, c'est la vraie repentance. Et cette repentance, on l'a fait avec les larmes dans les yeux, mais c'est aussi que la joie aussi est là. Je veux, j'abandonne cela, je n'en veux plus. Je veux maintenant vivre une vie nouvelle, alléluia, avec toi et pour l'éternité, alléluia. Quatrième, je vais terminer maintenant. Quatrième P, pilier, persécution. Ah oui, alors bien sûr, quand on prêche la vérité, est-ce que tout le monde est d'accord? Si vous êtes d'accord avec Dieu, il y aura des hommes qui ne seront pas d'accord avec vous. Amen. Alors avec qui voulez-vous être en accord? Si nous cherchons l'approbation de Dieu, nous aurons forcément la désapprobation des hommes. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec les premiers disciples. La persécution est là. D'une manière ou d'une autre, ou des tribulations. Les persécutions avaient différentes formes, n'est-ce pas? Il y avait la persécution physique, mais il y a aussi la persécution morale. Et ça, c'est terrible. Et maintenant, nous vivons plutôt, nous, ici, dans nos pays, plutôt une persécution morale. Dès que vous voulez être fidèle à la parole, on vous regarde de travers. Vous êtes dur, vous n'avez pas d'amour. Vous jugez les gens, vous les condamnez. C'est inadmissible. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre cerveau. Il arrivera un temps où les psychologues, les psychiatres, quand l'antichrist se manifestera, ils considéreront anormaux les personnes qui voudront s'attacher à l'évangile. Mais bien sûr, lorsque l'antichrist viendra, nous serons partis. Mais certains se donneront au prix de leur vie. Et même maintenant, il ne faut pas seulement attendre ce jour-là. Maintenant, que de persécution morale. Vous êtes pointé du doigt. Un jour, j'avais lu cette pensée. Certains ont plus peur d'un éclat de rire que d'un éclat d'obus. Certains ont plus peur d'un éclat de rire que d'un éclat d'obus. La moquerie, le mépris, le rejet. On parle tant de rejet aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Ah, c'est le langage de tout psychologue. La première chose qu'il vous dit, si vous avez des problèmes, vous avez été rejeté. Pas le papa, la maman, le grand-père, la grand-mère, ils en prennent un coup, hein, les parents. Et c'est pour ça que ça crée des tensions dans les familles aussi. Quand on accepte cette philosophie mondaine. Tu as un sentiment de rejet. Mais qui n'en a pas eu? Est-ce qu'on parle de cela dans les évangiles? On a tous passé par des tribulations. Ce n'est pas un sentiment plus qu'un autre qui est la faute, c'est notre péché. C'est ton attitude par rapport à Dieu qui est importante. Tu es un rebelle devant Dieu. Tu dois changer. Tu dois capituler. Et c'est alors que tu auras le pardon et la vie éternelle. Amen. Persécution, acte 14, 22. Voici ce que Paul disait à ses premiers chrétiens. Verset 21, le lendemain, Paul partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant, écoutez bien maintenant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà un verset que nous avons besoin d'entendre et qu'on entend plus souvent. C'est par beaucoup de tribulations que nous devons passer pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi ces premiers chrétiens étaient avertis. Ils n'étaient pas étonnés de ce qui se passait. C'est pourquoi ils ont tenu ferme. Et ils pouvaient aller même jusqu'aux arènes. N'est-ce pas vrai? Jusqu'aux arènes. Et rien ne pouvait les arrêter. Ils savaient que c'était leur lot. Aujourd'hui, un petit problème, un petit bobo nous arrive. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, ça va plus. Qu'est-ce qui se passe? Tout allait si bien jusqu'à présent. Seigneur, non, je suis pas d'accord. On commence à donner des ordres à Dieu. Non, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Je suis pas d'accord. Tu dois changer. Ah bon, qui doit changer? C'est toi ou c'est Dieu? Dieu ne changera jamais, il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui dois changer. Amen. Par beaucoup de tribulations, donc ne soyez pas étonnés. Quand Dieu est avec nous, quand le Saint-Esprit agit dans notre vie, ça crée des troubles autour de vous. Des personnes, bon, les personnes qui veulent, ça va, elles acceptent, mais les personnes qui n'en veulent pas se dressent contre vous, mettent des embûches sur votre chemin. Il y a toutes ces choses, mais il ne faut pas que nous soyons étonnés de cela. Amen. Voilà ce que Paul disait. Et en le disant, eh bien, il a aidé ses premiers chrétiens à rester fidèles jusqu'au bout. Mais si nous ne savons pas ces choses, nous ne tiendrons pas. Et la première embûche, nous tombons dedans. La première épreuve nous fait chavirer complètement. C'était leur clé, la tribulation. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et cinquièmement, je termine, la progression de l'évangile. Progression. Acte 12, 24. Acte 12, 24, voici ce qu'il est dit. C'est quand le roi Hérode, 21, on peut lire déjà à partir du verset 21, un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un homme, voix d'un dieu et non d'un... Vous vous rendez compte? Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Oui, c'était même un inconverti. Hein. Ceci pour nous dire que Dieu contrôle même les nations et les rois des nations. Et s'il permet à certains rois et dictateurs de tenir, c'est parce que Dieu a un plan là-derrière. Mais c'est lui le souverain. Il y a un temps limité pour cela. Et alors après, il y aura le jugement. Le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé de vers. Et regardez après le verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Amen. Voyez-vous, alors que dans les milieux du gouvernement, il y a tout un chamboulement. Et dans ces chamboulements, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Alléluia. Car certains hommes ont dû réaliser que Hérode n'était pas un dieu, mais un homme comme tous les autres. Et ces bouleversements ont permis à ces hommes d'être plus réceptifs à l'évangile. Amen. C'est pourquoi Dieu permet des difficultés dans nos vies, pour que nous soyons plus réceptifs à l'évangile. Quand tout va bien, on n'a besoin de personne. C'est pourquoi Dieu permet des épreuves dans notre vie, pour nous montrer que sans lui, on ne peut rien. Et on a besoin du Seigneur. Une dernière référence, acte 19, 20. Acte 19, 20. Et là, c'est quand, verset 18 déjà, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Écoutez-moi bien, mes amis. Ça, c'est la preuve d'une vraie conversion. Quand vous êtes prêts à brûler des choses qui ont une très grande valeur, ça veut dire que vous êtes vraiment convertis et que vous avez abandonné votre passé. Amen. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Oh là là, non, il ne faut pas exagérer. Je peux les vendre. Ça a une très grande valeur, je ne peux pas... Non, oui, je peux m'en débarrasser, mais pas brûler. Je perds tout. Il les brûlait. Voyez-vous? Une vraie conversion. L'argent n'avait plus d'influence sur eux. Et avec tout cela, au verset 20, qu'est-ce qu'il est dit? C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. N'est-ce pas merveilleux? Alors que l'ennemi est en train de rugir partout, par-ci, par-là, eh bien le Seigneur utilise tout ça pour que sa parole pénètre les cœurs et qu'elle croisse et qu'elle augmente et qu'elle porte du fruit et un fruit qui demeure. Amen. Et c'est cette parole qui délivrait les captifs. C'est cette parole de l'Évangile. Soyons attachés à cette parole. Nous vivons la dernière génération. Il y aura d'autres évangiles. Certains prêcheront un autre Jésus. Mais nous devons veiller à prêcher le seul évangile valable, le seul Jésus et le seul Esprit qui confesse la réalité de la parole de Dieu, du sacrifice expiatoire de l'homme, de la perdition et de la perversité du cœur de l'homme, de la repentance et du salut, la résurrection d'une vie nouvelle. Alléluia! C'est le message qui libère. C'était les 5 clés du livre des Actes. Puissions-nous les mettre en pratique nous-mêmes et vivre ce que Dieu veut qu'on vive pour être des témoins qui le glorifient. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Courbons-nous encore quelques instants. Alléluia.